c'est dans cette atmosphère pleine de joie et de bonne humeur que j'ai décidé de te parler de la première véritable franchise cinématographique, La Planète des Singes, écrite par Pierre Boulle, romancier à qui l'on doit aussi Le Pont de la Rivière Kwai, qui lui aussi a été adapté au cinéma. Si le récit de l'histoire originale est à Paris, le film se déplace dans un monde post-apocalyptique et qui met en scène trois astronautes dont le vaisseau se crache sur une planète inconnue. Pour plus de détails, il faut revoir le film. Mais malgré tout, je vais spoiler. Et ça va spoiler à mort. Car la fin, qui voit Charlton Heston effondré devant la Statue de la Liberté et rescapé d'un holocauste nucléaire, glace le sang. Une fin qui change aussi la face du cinéma. Même sa suite te fait dont l'inéluctable. C'est fou comment toute cette histoire sonne aussi juste, même si c'est une bombe qui a tout enclenché. La Planète des Singes n'allait pas rester une diptyque pour longtemps. Puisque la Fox et Edward P. Jacobs, producteur qui acheta les droits d'adaptation à Boulle, alors que ce dernier n'avait pas encore sorti le livre, sentent que ça doit aller plus loin, et dans une issue plutôt inattendue. Avec l'arrivée de deux singes, des chimpanzés, Cornelius et Zira. Un troisième larron, Milo, victime de l'accident bête, se faire tuer par un gorille un peu jaloux de l'intellect de la bande. De l'intellectuel de la bande. De la bande plutôt. Bref, le film est issu d'une idée originale qui inverse les rôles. Ici, les singes tombent dans un monde où c'est l'homme qui le domine, l'inverse du premier film. Bon, je ne vais pas m'étaler en long et en large sur cette série de 5 films, il faut oser le dire, a totalement changé le monde de mode de pensée hollywoodien, que ce soit au niveau du marketing, car avant les produits dérivés Star Wars, il y a eu les produits dérivés La Planète des Singes. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire le succès de la franchise ? Parce qu'au-delà du concept totalement original de partir du postulat, et si la planète était dominée par les singes, qu'est-ce que ça donnerait si on introduit des humains qui soient dotés de mêmes facultés intellectuelles que les maîtres actuels de la dite planète ? La Fox a financé le premier film parce que Jacobs a trouvé une tête d'affiche crédible avec Charlton Heston, qui dans ce film sera un vrai punching ball pour les singes qui découvrent pour la première fois un humain doté de parole. Faut aussi revenir sur les moyens dont a pu disposer l'équipe de production. La Fox a plutôt fait les yeux ronds quand Jacobs leur annonce un budget de 10 millions de dollars, énorme pour l'époque et pour un film pareil. Justifié si on lit le scénario original qui incluait beaucoup d'effets spéciaux. Au final, la Fox en propose 6, à condition de virer tout le superflu, les effets spéciaux quoi. Et en fait, la grosse partie du budget ira aussi pour la confection des maquillages pour les singes. Une révolution par l'époque à qui on en plus pas du tout vieilli à mon sens. La Planète des Singes est aussi un film sombre. Il n'est pas seulement sombre de par les trames qui le constituent, ce sont aussi les thèmes sociaux et politiques qui sont abordés. En premier lieu, la possibilité d'un conflit nucléaire qui dégénère, la guerre du Vietnam, qui battait son plein, et que le scénariste Paul Den, qui s'occupera du deuxième opus, on doit aussi à Den d'autres scénarios qui ont été des succès, dont Goldfinger, L'espion qui venait du froid, ou encore Le crime de l'Orient Express. Premier thème composé par Jerry Goldsmith, génial compositeur à qui l'on doit les musiques de Gremlins, Rambo, Alien, ou encore Chinatown. Un poids lourd de la musique de film qui donnera le la à son successeur pour les suites, Leonard Rosenman, à qui l'on doit quand même hein, à l'Est d'Eden, ou encore La Fureur de Vivre. Outre les compositeurs, il y a eu aussi les réalisateurs. William Schaffner, qui fera plus tard Papillon et Patton, Don Taylor, à qui l'on doit L'île du Docteur Moreau, avec Marlon Brando, et Damien, La Malédiction 2. Mais aussi John Lee Thompson, qui signera quand même Les Canons de Navarone et Les Nerfs à Vif. Des réalisateurs donc qui s'attelleront à donner une patte particulière à chacun des films traitant de ce futur dystopique. Ce qui est plus incroyable avec la première franchise, La Planète des Singes, c'est le fait que l'on se remémore au moins une scène forte de chacun des films. Je ne me suis jamais rendu compte qu'au final, j'ai dû avoir vu tous les films de cette première franchise avant de les avoir revus. du discours de César dans le quatrième film et son éloquence simiesque. Ou encore l'image iconique, je me répète, hein, je sais, la statue de la liberté échouée sur la plage. Que d'émotions fortes qui te font oublier toute l'ambiance précédente du déroulement. Où tu crois que c'est un voyage à travers un monde parallèle où l'évolution a fait du singe le maître incontesté des lieux. En plus du fait que les chats et les chiens ont disparu de la surface de la Terre. Ça aussi, c'est flippant. La science-fiction a pris un nouveau tournant avec la planète des singes. Et on peut aller loin avec cette idée, imagine. Si la planète des singes n'avait pas été produite par la Fox, qui à l'époque connaissait de grosses difficultés financières, il n'y aurait pas eu de Star Wars, d'Alien et encore moins E.T. Parlant de difficultés financières, la Fox a, comme qui dirait, tout fait pour tester la viabilité financière de sa poule aux œufs d'or, enfin de son singe aux œufs d'or. À peine le premier film sortait, la production de la suite avait été lancée, avec un budget moindre. Le même scénario se répétera pour les autres suites qui, malgré un budget qui rétrécissait à vue d'œil, la franchise rentrait toujours dans ses frais, tout en permettant la préparation d'une nouvelle suite. Un mode de travail qui va se généraliser par la suite. Et pas que pour la science-fiction. Le parrain de Coppola suit plus ou moins ce chemin. Avec une distribution solide, même si le troisième opus, qui sort 20 ans, presque 20 ans après le deuxième, est proche de l'immonde. J'y reviendrai peut-être un jour. Première franchise, Planète des Singes, est restée gravée dans l'esprit des cinéphiles pour bien des raisons que je ne vous donnerai pas tout de suite. Parce qu'il faut bien que je vous laisse un peu de suspense pour la deuxième partie de ma chronique qui va parler du remake ainsi que des reboots. Et pour patienter, rien de mieux que de se revoir les cinq premiers films et rattraper son retard sur les films d'hier qui ont bâti ceux d'aujourd'hui. Donc, à suivre.
Ouais, merci Bouge, en tout cas, à suivre effectivement. La semaine prochaine, vous retrouverez donc la partie 2. Juste pour te dire, moi, la scène qui m'a plu dans le film, c'est lorsque Taylor, joué par Charlton Heston, lance l'avion de papier dans le tribunal. Alors là, il y a un choc, et quand il parle, et à un moment donné, lorsqu'il recouvre la parole suite donc au lynchage, va dans le champ, là, c'est fantastique. Là, toute la science-fiction prend son ampleur totale, quoi. C'est top, quoi. Les singes, ils sont surpris. Zaius, donc le chef, il est, il connaissait l'histoire des humains, et là, il est totalement surpris et apeuré en même temps, quoi. Parce que il sait que l'avenir de son peuple est en jeu, quoi.
Et en même temps, il faut justement rappeler le fait que Zaï soit un orang-outan, tout comme le Lawgiver du cinquième film de la franchise. Donc les orang-outans, pour ceux qui ne, je sais pas, qui n'ont pas encore et qui découvrent peut-être à peine la franchise, les orang-outans, c'est la classe on va dire pensante, bien pensante de la société qui est régie par les singes. Donc tu as les gorilles qui justement s'occupent de l'armée et de tout ce qui est castagne, et tu as les chimpanzés qui sont des purs scientifiques, des esprits curieux.
Ouais, ils ont bien fait leur histoire, quoi. Ils ont très très bien fait leur histoire, quoi. C'est fantastique. Je te dis, c'est un de mes films préférés. J'ai pu voir ça à de nombreuses reprises. C'est top, quoi. Et à l'époque, donc, ça passait, je crois que ça s'appelait Antenne 2. C'était dans les dossiers de l'écran. Voilà. C'était dans cette partie-là, quoi. Les dossiers de l'écran, l'émission que c'était. C'était présenté par, je sais plus qui, comment.
Non. Jacques Chancel.
C'était Jacques Chancel ou Armand Jameau?
Attends, ça c'est le Grand Échiquier.
Ouais, ou Armand Jameau. Non, Armand Jameau, c'est Chiffre des Lettres. Alors, t'imagines? C'est pas la même cam. Mais en tout cas, c'était dans les dossiers de l'écran. Ça, je m'en souviens. Voilà. Ouais, c'était fantastique, quoi, voilà, quoi. Et puis à chaque fin d'émission, il y avait un scientifique, il y avait une personne donc qui parlait un peu science-fiction après le film et qui déblatérait des trucs. Bref, ce serait curieux de revoir ça, quoi. Mais bon, en tout cas, la planète des singes, c'est fantastique.
C'est curieux. Eh bien, le créateur du programme est bien Armand Jameau. Tu ne t'es pas trompé, en tout cas.
Ah bah alors c'est ça.
C'est bien Armand Jameau.
Ok. Alors je me suis pas trompé. Butch, merci encore. On se dit à la semaine prochaine, en tout cas.
Ouais.
Ok, allez, on continue sur la web rock station Vinny Times, le Classic Rock Radio. Juste pour vous dire que le podcast du Bouge Rock sera juste après l'émission disponible sur la page 213 Rock, sur la page himself de Bill El Bouge et sur la page Facebook Vinny Times. On continue avec ID Infinitum sur le 113 Rock, le troisième single de ce groupe à venir avec une chanteuse absolument magnifique et surtout aussi une belle voix. Les deux vont de pair. Le titre See You in Hell sur le 113 Rock, Arig Melodica Magum.
When the night comes back, all my fears and doubts, get my hand to choose the way to win this masquerade. You are my only star, my light in the dark. One drop in your wine and all this pain will fade away. Now I run in tears,